Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, animée par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibée.blogspot.com.
Yes, children, this is the cool out corner.
Au sommaire aujourd'hui, une émission sur la représentation des minorités dans le cinéma états-unien. L'occasion pour nous de revenir sur le cas, entre guillemets, Spike Lee, avec Mo Better Blues et Jungle Fever, deux films récemment sortis chez Elephant Film. Toujours chez Elephant Film d'ailleurs, nous reviendrons sur Blue Collar de Paul Schrader et Queen and Slim de Melina Matsoukas, qui lui est par contre disponible chez Universal depuis peu d'ailleurs, hein, depuis la fin du premier semestre 2020. Nous ne nous priverons pas également de citer d'autres films quand le débat l'exigera. Pour aborder ce sujet hautement inflammable, je suis accompagné de deux camarades, eux aussi issus des minorités. Hein, tout d'abord, le premier, hein, Damien Demey, la bête noire de Compiègne, fait partie d'une minorité très particulière parce que c'est un archéologue animal. Voilà, alors c'est un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Je pense que c'est tellement une minorité qu'il est tout seul dans ce cas d'ailleurs. Salut Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
L'autre minorité est présente dans ce studio. Alors elle, c'est vraiment très particulier parce que c'est un loup-garou piquant, mais un loup-garou chauve surtout. Et ça c'est très rare, les loups-garous chauves. Hein, voilà. Une fois transformés... C'est pas Jojo, quoi, mais bon, c'est comme ça. Hein. Bon, faites attention si vous le croisez la nuit de pleine lune, lorsqu'il enregistre son émission à l'écoute du cinéma, hein, qui est diffusée sur RCA, ou lorsqu'il rédige de sanglants écrits pour la revue Griffe. Salut Thomas Roland.
Salut Gégé, salut Damien, et salut à toutes. En fait, Gégé, c'est du camouflage pour tromper mes proies.
C'est vrai? C'est oui, vrai oui. T'es comme ça? T'es trop fort, tu es trop fort. Bon, aujourd'hui... On a décidé d'aborder un thème qui s'inscrit en fait dans la continuité un peu d'une émission récente, hein, de la deuxième émission de cette saison, de cette saison 12 de Culture Prohibée, oui. Eh oui, 12 ans déjà, eh oui, dis donc, incroyable, hein, voilà, et on est toujours là, parce que c'était une émission sur les Cultural Studies, hein, avec David Da Silva, hein, l'auteur de l'ouvrage Cultural Studies Hollywood, Le passé remanié, qui est paru aux éditions Leitmotiv, et le débat était très enrichissant, très intéressant, en même temps... C'est aussi un débat en ce moment qui, comment dire, le débat sur les cultural studies et puis plus largement sur les représentations des minorités. Alors, dans différents médias, on a choisi de s'intéresser au cinéma états-unien, mais bon, on pourrait faire une émission un jour sur le cinéma français, sur la télévision, sur plein de choses. Voilà. Là, on a choisi, nous, de se consacrer, parce que ça cadrait aussi un peu avec les sorties, Blu-ray, DVD de ces derniers mois. Et puis surtout... le sujet a fait l'actu. Bon, bah, on en a parlé dans l'émission avec David Da Silva. On va pas revenir sur tout ce qui s'est passé, les déboulonnages de statues et tout, voilà, tous les débats qui animent notre société, le monde occidental, on va dire, hein, d'ailleurs, hein, puisque c'est aux États-Unis, mais c'est aussi en France et puis c'est ailleurs. Et c'est surtout lorsque l'on a eu ces sorties récentes chez Elephant Film de quelques films là, dont je vous ai parlé dans l'introduction. Et surtout, c'est Blue Collar de Paul Schrader qui nous a fait, qui nous a fait énormément réagir, parce qu'on s'est dit que la manière très, très, très intelligente, très subtile dont étaient représentées les minorités dans ce film, eh bien, ce serait plus possible aujourd'hui. Cette ambiguïté qu'il y a dans le film, ce discours, hein, on va vous rappeler peut-être brièvement ce que raconte Blue Collar, Thomas.
Blue Collar, c'est, en français, c'est col bleu. Hein, col bleu fait référence à l'habit bleu des ouvriers. Donc, c'est, on suit l'histoire de trois amis, trois ouvriers dans une usine de voitures de Détroit. Trois amis, donc il y a Fred Cotto, il y a Richard Pryor et Harvey Keitel, qui sont trois amis. Chacun a leur petit problème de thune, hein, donc ils ont des problèmes familiaux, ils ont des obligations familiales aussi. Hein, et ils vont apprendre qu'il y a beaucoup d'argent dans le coffre du syndicat, ils vont vouloir le braquer tous les trois. Et à partir de là, les choses vont se passer beaucoup moins bien pour chacun d'eux.
Oui, Blue Collar, c'est un film d'abord, il faut le savoir, c'est la première réalisation de Paul Schrader. Et pour faire un peu le lien d'ailleurs avec la suite de l'émission, c'est aussi le film que Spike Lee veut absolument que ses étudiants en cinéma voient avant de réaliser un film. Et pour lui, c'est un film qui est assez parfait. Ce qui est pas si étonnant que ça en fait, et on développera un peu après, parce que des fois on peut trouver que les films de Spike Lee sont manichéens et à leur voyure pas toujours en fait. Il y a un aspect, il est plutôt malin en fait, Spike Lee. Et le film vient d'une idée de Sidney Glass, et ça on l'apprend dans les bonus de l'édition Éléphant de Film par Jean-Baptiste Torret, qui a amené à Paul et Leonard Schrader, qui est créé avec son frangin, hein, Paul Schrader. Paul Schrader, on rappelle que c'est le scénariste de Taxi Driver, hein, voilà, et que c'est aussi le scénariste de Rolling Thunder, de John Flynn. D'ailleurs, il passe un peu à la mise en scène parce qu'il n'est pas très content des adaptations de ses scénarios. Et puis, c'est un peu le maître du monde, hein, je veux dire, quand tu as fait ces scénarios-là. À l'époque, en tout cas, il a le vent en poupe. Paul et Leonard Schrader se font amener ce scénario d'ouvriers qui se révoltent contre leur syndicat corrompu. Ça se passe dans un état des USA, c'est réellement arrivé, hein, voilà ce qui se passe. Comme tu l'as dit, Thomas, hein, Prior, il doit de l'argent aux impôts parce qu'il arnaque les impôts depuis des années. Il y a un contrôleur qui vient chez lui. C'est une superbe scène, on voit tout le mépris de cet homme blanc représentant de l'administration envers cet homme noir qui fait ce qu'il peut pour s'en sortir. On a Harvey Keitel qui doit trouver un appareil dentaire pour sa fille, parce que ça n'a pas changé, hein, les problèmes de mutuelle pour les Américains, c'est quelque chose de terrible, hein. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'ils ont énormément de morts du Covid-19, hein, parce qu'ils n'ont pas les moyens tout simplement d'être hospitalisés, de se soigner. Et puis il y a Yaphet Kotto, alors lui on sait pas trop ce qu'il est, mais enfin on peut le soupçonner d'être un peu voyou, c'est une sorte de Mac, voilà, très sympa avec ses copains d'ailleurs, hein, ses collègues de travail, mais un peu louche sur les bords. Et tout de suite, le film est assez extraordinaire. Il y a la musique de Ray Cooder qui nous met, avec une chanson de Captain Beefheart, qui nous met dans... On voit des superbes plans des ouvriers au travail. Voilà, on les voit en train de bosser. Comme Thomas, tu avais dit dans la dernière émission de la saison passée, on avait un peu parlé du film succinctement. On voit aussi que John Carpenter a vu ce film avant de faire Christine, parce que c'est voilà, ça le rappelle énormément, cette intro, celle de Christine. Ressemble beaucoup à celle de Blue Collar. Et ce film, donc, c'est à la fois une chronique du monde ouvrier, et c'est ça qui fait sa richesse. Et c'est aussi une comédie, parce qu'il y a des moments très drôles. C'est aussi un film de casse. Voilà. Et c'est aussi un thriller paranoïaque, parce qu'après, on bascule aussi dans la parano totale. Et c'est vraiment un film particulièrement bien troussé. On voit... Le ciel de l'usine qui est écrasant comme ça, qui écrase la photo, elle donne un aspect. On a l'impression que ces ouvriers sont complètement écrasés, dominés par la situation. Ils n'arrivent pas du tout à s'en sortir. Le ciel écrasant est chargé de pollution comme ça. Enfin, en gros, si tu crèves pas de maladie, tu crèveras d'autres choses, quoi. Voilà, mais c'est un peu une sorte de monde impitoyable qui nous est décrit quand même. Et ce qui est très très intéressant, et c'est là où le film nous a tous les trois beaucoup plu, c'est que, enfin, on n'a pas encore entendu Damien, hein, parce que il va me frapper, parce que je ne l'ai pas laissé parler encore. Mais bon. Après, je vais le laisser parler, parce que ce n'est pas parce qu'il fait deux têtes de plus que moi que je vais avoir peur de lui. Hein. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce film, en fait, montre comment, de la lutte des classes, on passe au conflit racial. Et ça, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, il y a un message dans le film. Il y a un des personnages qui dit aux autres, à un moment, « Tant que les Blancs détestent les Noirs, rien ne changera. » Et moi, j'aime beaucoup, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'effectivement, on voit des personnes d'origine différente. On a un Italien, un immigré, enfin, descendant d'immigrés italiens, Hervé Kettel, et deux Noirs, hein, descendants, donc forcément d'esclaves, voilà. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que la question raciale ne se pose qu'en corrélation, en fait, avec la question de classe. La question raciale, elle n'est pas forcément... Elle est centrale dans le film. Mais le fait que ses amis en viennent à devenir des ennemis, c'est un long processus qui nous est décrit. Et c'est possible parce que c'est grâce au fonctionnement du capitalisme. C'est pas pour rien que c'est filmé dans une usine Ford, je crois, enfin, qui est l'expression même, la personnification du capitalisme à l'américaine. Le Fordisme, c'est-à-dire quand c'est arrivé, toutes les usines du monde entier s'y sont mis, quoi. Voilà, quoi. Et le travail à la chaîne, voilà, ça a été quelque chose de très important. Et là, on voit bien que l'organisation de la société, sa structuration, le système capitaliste, fait que c'est ça que je trouve, c'est un message fort qu'on ne retrouverait pas forcément dans des films d'aujourd'hui, fait qu'on en arrive à cette conclusion, c'est-à-dire que ce n'est pas une question de race, c'est une question de qui domine qui. Et là, en l'occurrence, à travers ce film, c'est le grand capital, le patronat, la bourgeoisie, c'est-à-dire, je suis désolé, hein, je vous fais du Marx, hein, mais celle qui détient l'outil de production, la propriété privée, c'est l'outil de production, hein. Je rappelle à ceux qui caricaturent un peu la pensée de Marx en disant « Marx ne veut pas que les ouvriers aient une maison, c'est n'importe quoi. Hein. » La propriété privée, c'est l'outil de production. Donc, ceux qui détiennent l'outil de production et qui oppressent les autres. Et c'est terrible et c'est très bien montré aussi à travers le parcours du personnage de Richard Pryor. Voilà. Il se rend même pas compte. Lui, il a l'impression de changer de classe, mais il ne change pas de classe. Il est toujours dans les dominés, en fait. Voilà, il a l'impression de devenir un dominant, mais il est toujours dans les dominés. Ceux qui ont vu le film me comprennent. Et moi, j'adore ça. Écoutez Culture Pourrie. aujourd'hui, nous on l'a vu récemment dans d'autres films qui vont alimenter le débat, il y a tellement plus de place pour l'ambiguïté que moi je suis sûr qu'un tel film avec de tels acteurs, parce que c'est un gros film quand même, Blue Collar, hein, c'est le scénariste en poupe, voilà, c'est des acteurs quand même émergents, Prior, Kettel, tout ça, ils sont en train d'exploser à l'époque. Hein. Et un tel film aussi subtil et tout, aujourd'hui, en tout cas aux États-Unis, j'en vois pas.
Pour citer ce que tu disais par rapport à aujourd'hui, on ne trouve plus ça dans le cinéma US. Il y a un film qui me semble que j'ai cité la dernière fois et que je re-signe à nouveau, qui est Sorry to Bother You, qui, en prenant du recul, est pas une réplique de Blue Collar, mais qui récupère les mêmes thématiques, exactement les mêmes transformations, avec ce changement de statut social qui est censé faire passer du dominé à la domination autrui, qui se rend compte qu'il reste dominé et qui fait justement évoluer cette idée de lutte des classes vers une lutte raciale. Et ce qui est important avec ce que tu as dit, notamment à l'image du fordisme et de ce travail à chaîne, c'est que dans cette idée, tout le monde est à sa place et tout le monde fait normalement un travail qu'il est censé faire à un seul endroit. Et le film part de ce principe-là, c'est-à-dire qu'ils sont censés rester là où ils sont, mais qu'ils vont décider que là où ils sont, justement... ne leur conviennent pas parce que ça implique de nombreux malheurs. Et au début de cette révolution qu'ils vont mener, enfin révolution c'est un grand mot, mais à partir de ce changement qu'ils vont mener, c'est-à-dire de changer de place là où on leur avait indiqué, tout va se basculer et c'est en effet un affrontement que tu retrouves dans ce film qui est l'idée que eux, là où ils en sont, ils sont incapables de s'en sortir, du coup ils ont besoin de sortir de là où ils sont. En fait, le fait de sortir de là où ils sont, ça commence un effet domino important dans le film.
Il y a une scène dans le film qui m'a frappé, c'est au début du film, pour montrer que ce sont des bons potes, etc. C'est qu'ils font des soirées ensemble, où ils reniflent de la coke, etc. Et il y a une image, comme on a vu, on n'est pas prêt de revoir dans le cinéma américain, enfin, tout du moins dans des films, on va dire, relativement grand public, c'est qu'ils font aussi des parties fines. Ensemble. Et je crois qu'il y en a un qui ramène des prostituées, c'est peut-être Yafet Koto d'ailleurs, qui ramène des prostituées. Et il y a une image à un moment où Harvey Keitel, donc un blanc, fait un cunnilingus à une noire. Et ça, je trouve que ça représente bien le film, l'amitié qu'ils ont entre eux et que finalement la couleur de peau n'a pas grande importance entre eux. Que ce sont des hommes, des femmes, comme les autres, ils se regardent de façon égale. Et je pense que cette image, donc du blanc en train de faire un cunnilingus à une femme noire, on n'est pas prêt de la revoir dans un film américain récent.
D'autant plus que la question... c'est marrant, hein, ça c'est un tabou, c'est vrai, c'est un tabou très très américain en fait. C'est-à-dire qu'il y a une sorte... Alors on le retrouve en France aussi d'ailleurs, mais plutôt en direction des anciens, de nos anciens protectorats ou de nos anciennes colonies. Hein, c'est-à-dire, par exemple, si on prend, on va être clair, on va prendre la pornographie. Pour les Américains, l'interracialité, c'est un genre en soi dans la pornographie. C'est-à-dire, pour eux, c'est tellement impensable qu'une blanche couche avec un noir ou qu'une noire couche avec un blanc que ça en est devenu un genre. C'est quelque chose qu'on le voit dans les films, quoi. Voilà, c'est assez... En France, on a un peu la même chose avec, tout un fantasme qui est véhiculé autour de la fille de banlieue, de ce qui est, appelé avec condescendance la beurette. Voilà, c'est tout un... Voilà, et c'est... Dans la représentation des minorités, on se rend compte qu'il peut y avoir quand même des corrélations. Voilà. Mais aux États-Unis, c'est vrai que c'est un tabou incroyable. Hein. C'est quelque chose... nous, avec nos yeux de spectateurs européens, c'est pas quelque chose qui va nous choquer de voir ça dans le film. Mais effectivement, je partage, hein, Thomas, je suis pas sûr qu'une scène comme ça... puisse être, enfin, c'est pas le débat du jour, hein, de dire ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, pas faire. Il y a des petits films indépendants qui peuvent le faire, je veux dire, mais des gros films comme ça, c'est pas la même chose, quoi. Après, si on veut dresser un peu un état des lieux de la représentation des minorités au cinéma US, on n'a pas vraiment le choix de passer par la case Spike Lee. Déjà, Spike Lee est déjà revenu plusieurs fois depuis le début de cette émission. Je crois que là-dessus, Spike Lee reste vraiment qu'on aime ou qu'on n'aime pas son cinéma, c'est une personnalité majeure du 7e art, qui va quand même croire qu'il y a un gros complot contre lui, hein, parce que là, il devait être président du jury à Cannes cette année. c'est vraiment pas de bol pour lui, quoi. Mais ce qui est très intéressant, parce que Personnage aussi très, comment dire, très ambigu, Spike Lee, hein, très, très ambigu. Il est pour beaucoup, effectivement, dans la meilleure représentation, en tout cas aux États-Unis, hein, il a son importance. D'abord parce que c'est un cinéaste important, et ça, un cinéaste noir important, voilà. Et puis surtout, c'est de par sa personnalité, quoi. Il est fort en gueule, il n'hésite pas à prendre position. Il a un côté très militant. C'est-à-dire, d'ailleurs, il a un côté très militant, mais il peut retourner sa veste. Parce qu'on se rappelle que pendant un long moment, la représentation des Noirs à l'écran, c'était un peu l'hypervirilisme, hein, comme la représentation des Italiens. Hein, les représentations des Italiens, des Italo-Américains, c'est la mafia. Les Noirs, c'est l'hypervirilisme de Shaft, des quatre justiciers, de Fred Williamson et tout ça, voilà. C'était la Blaxploitation. La Blaxploitation, c'est pas un mauvais exemple par rapport à Spike Lee. C'est-à-dire que il a dit plusieurs fois que la Blaxploitation, c'était un genre pas noble, quoi, que c'était une manière caricaturale de représenter les Noirs et tout. Et, très étonnamment, dans Black Klansman, il fait presque un mea culpa là-dessus, hein, dans une scène de drague d'ailleurs. Il fait presque un mea culpa sur la Blaxploitation, qui est assez étrange. Alors je pense que aussi, parce que le communautarisme est tellement fort et le poids des cultural studies est très important, quand tu t'attaques à la Blaxploitation, bah, hormis Melvin Van Peebles et tout ça, qui était noir, qui a fait des films avec des noirs, pour les noirs, voilà, bon, ça c'était quelque chose de très revendicatif, mais qui à l'époque était tout à fait logique, quoi, voilà. Parce que c'était une époque où les noirs n'avaient pas du tout leur place à l'écran, sauf pour jouer des esclaves, quoi, quand même, hein, faut dire les choses, quoi. Enfin, ils n'avaient que des rôles caricaturaux. Là, il a fait un héros noir, quoi, voilà, avec Sweetback Badass Song. Mais sinon, il y a quand même un truc, c'est que le pape de la Blaxploitation, les meilleurs films, quoi, avec, comment dire, Kaysar, Black Kaysar, et puis sa suite, apparemment une suite d'ailleurs, c'est Larry Cohen. Larry Cohen, lui, il est juif. Alors ça l'a fouté un peu mal de dire, bah, c'est un peu nul parce que c'est une vision des Blancs. Alors en plus, c'est une vision d'un juif. Donc c'était encore plus polémique. Donc je pense qu'aussi, il a peut-être préféré, enfin, je sais pas, c'est peut-être un début d'explication à son mea culpa, mais on verra que très souvent, Spike Lee est un peu compliqué et pas toujours. Très sur ses opinions, il peut être mouvant, il peut être assez étrange, voilà. Ensuite, l'erreur qui est souvent faite aujourd'hui, je trouve, hein, dans la représentation, c'est de dire que pour que il y ait intégration des minorités au casting, il faut qu'il y ait des films communautaires et sociaux. Donc on se limite à cette question, en fait, de l'intégration des personnes dites de minorités au casting. Mais la question la plus importante, c'est comment les minorités sont représentées. C'est pour ça que le film de Blue Collar est vachement intéressant, parce qu'ils sont représentés de manière intelligente, ces minorités-là. On voit bien que Damien l'a très bien dit, ils sont au sein d'un système, sur une chaîne, et en fait, chacun est à sa place. Et Thomas l'a dit aussi, ta couleur de peau, on s'en fout, mon gars. Je suis le patron, je t'exploite, t'es là pour produire. Engueulez-vous pour vos couleurs de peau, c'est très bien. Pendant que vous faites ça, vous ne pensez pas à vous attaquer à celui qui vous exploite. Et dans ce sens-là, je trouve qu'aujourd'hui, on se plante un peu. C'est-à-dire que y a des polémiques, pour moi, qui font qu'on passe à côté des vrais sujets. Pour moi, ce sera gagné le jour où, par exemple, il n'y a pas longtemps, il y avait eu un film sur Bob Dylan et on avait fait interpréter Bob Dylan, je crois, par Cate Blanchett. Ça posait de problème à personne qu'une femme interprète un homme, Bob Dylan en l'occurrence. Et ben, le jour où ça posera de problème à personne que, je ne sais pas, Denzel Washington incarne Abraham Lincoln au cinéma, et c'est vrai, hein, parce que la question est là, quoi. C'est là qu'il n'y aura plus de problème.
Son
Vous écoutez Culture Prohibée, spéciale minorité dans le cinéma US. C'est pour ça que moi, parfois, je suis pas d'accord avec Spike Lee. Je suis souvent pas d'accord avec lui dans ce qu'il déclare. Et je repense à l'épisode Détroit, Catherine Bigelow. C'est-à-dire qu'il avait fait pareil avec La couleur pourpre de Spielberg. Et renier le droit à une personne, parce qu'elle est blanche, et Spielberg, blanc et juif en plus, de représenter des malheurs arrivés au peuple noir, c'est pour moi complètement idiot, quoi. C'est complètement idiot. Enfin, je veux dire, si un cinéaste blanc fait un film magnifique sur la question, ce qui est le cas du film de Catherine Bigelow, moins le cas du film de Spielberg, La couleur pourpre, mais le film de Bigelow est quand même extraordinaire. Moi, ça ne me pose aucun problème que ce soit une femme blanche, issue des classes moyennes, voire peut-être d'une certaine bourgeoisie, qui fasse un film sur des bavures policières. Alors, on est plus proche de l'exécution, d'ailleurs, que de la bavure à... Voilà, parce qu'en plus, c'est assez clair. Je veux dire, elle ne donne pas une image reluisante du flic blanc dans son film. Il n'y a pas d'ambiguïté. On ne peut pas dire ça, quoi. Donc, il faut faire attention, parce qu'aujourd'hui, on arrive à un moment... où j'ai jamais entendu Spike Lee se positionner là-dessus, mais par exemple Michael B. Jordan, cet acteur qui a explosé ces dernières années et qui a fait Creed, lui, il est pour appliquer l'inclusion rider, voilà, au sein des productions. Et la Warner était d'accord avec lui, c'est-à-dire que, un casting, il faudra dans tous les films qu'il y ait 50% de femmes, 40% de minorités ethniques, dont 20% de personnes handicapées, 5% de personnes LGBT. C'est quelque chose, là, je vous parle, c'est sérieux, ça, ce que je vous dis, là. Donc, il faut que, en fait, le film soit un miroir exact de la société. Ce qui est complètement fou, quoi, en fait, parce que l'expression artistique, c'est justement de sublimer l'existant. C'est de faire que ça ne ressemble pas... Dans ces cas-là, effectivement, Denzel Washington ne pourra jamais interpréter Abraham Lincoln. Enfin, cet exemple que je donnais, voilà. Donc, cette situation-là, elle résulte un peu de perte de repères, de perte de... Voilà, et puis aussi d'une oppression subie aussi, qui fait que les revendications sont d'autant plus fortes qu'on le voit aux États-Unis avec ce qui se passe avec les bavures, voire des exécutions policières. Il ne faut pas avoir peur des mots. Quand un homme qui va dans sa voiture se fait tirer à bout portant 7 balles dans le dos, ce n'est plus une bavure, c'est une exécution. Enfin voilà, moi j'appelle ça une exécution. Le seul mal problème qui me gêne, et y compris dans ce que dit Spike Lee, c'est que tous ces Michael B. Jordan, Spike Lee, même Samuel Jackson, quand il reproche à un acteur britannique d'incarner un noir américain, donc il faudrait que ce soit un noir américain et pas un noir britannique, il se trompe, quoi. Et pour moi, il se trompe. C'est-à-dire que le problème, il se trompe parce que le fondement philosophique de ce qu'il revendique, pour moi, est basé sur l'individualisme. C'est l'individu avant tout, et alors qu'il parle au nom d'une communauté. Et moi, je pense qu'on est... face à un Occident en perte de repères aussi. Et donc, on a tout ça, puis tout le monde est en perte de repères. Et un exemple de tout ça, c'est justement les deux films de Spike Lee, Mo' Better Blues, qui vient quand même après Do the Right Thing. Et dans Do the Right Thing, il y a un conflit entre Sal, propriétaire italien, d'origine italienne, d'une pizzeria, et des Noirs américains, qui sont ses clients, en fait. Voilà. Et... En fait, il y a une dispute. L'un des personnages exige en fait du propriétaire qu'il accroche des personnalités noires sur le mur de sa pizzeria, et lui, il a accroché des personnalités italiennes. Voilà. Donc, le conflit, évidemment, ça se passe pas bien. La pizzeria, elle est incendiée. Un jeune homme noir est tué par la police, et ça provoque une émeute, lors de laquelle l'épicerie d'en face, tenue par une famille coréenne, dont l'arrivée dans le quartier est mal acceptée parce qu'il y a des minorités dont on parle très peu. Je veux dire, elles sont souvent très, les minorités asiatiques sont très peu traitées dans le cinéma américain. Les minorités latinos sont encore très peu traitées. Il existe par exemple une statistique qui est claire aujourd'hui. Sur les années 2000, il y a 12% de films avec des Afro-Américains. Et en vrai, dans la société américaine, il doit y en avoir 14%. Donc en fait, on n'est pas très loin de la réalité. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas les rôles... ils n'ont pas de rôle intéressant. C'est ça, le vrai problème. Et du coup, à la fin, tout le monde se mord la queue dans ce film de Spike Lee, puisque cette épicerie tenue par des Coréens est elle aussi incendiée. Et moi, je trouve que là... C'est tout le paradoxe de Spike Lee, parce que ça, c'est un discours très intelligent. C'est-à-dire, c'est la même chose que Blue Collar. Et je trouve qu'il y a un paradoxe chez Spike Lee entre ses films, ce que portent ses films, et ce que lui peut dire. Et par exemple, là, on a sur la représentation... Alors, cette émission, c'est pas le procès de Spike Lee, mais on peut pas ne pas parler de Spike Lee quand on parle de la représentation des minorités dans le cinéma US. Je suis désolé, c'est impossible. Et là, si on prend ces deux films qui viennent après, enfin, il y a Mobetor Blues, Jungle Fever, qui sont des films là, qui se suivent. Mobetor Blues est un film loupé, je crois qu'on peut le dire. C'est-à-dire que Mobetor Blues, Spike Lee, il essaye de faire un film sur le jazz qui s'éloigne de tous les clichés sur des films sur le jazz. Et en fait, je trouve qu'il n'y arrive pas. C'est-à-dire, en s'éloignant des clichés, il fait un mauvais film. Et par contre, quand il fait Jungle Fever, avec cette histoire d'amour impossible entre des gens de différentes minorités, là, pour le coup, il y a les Italiens, il y a les Noirs et tout ça. Et c'est vachement, vachement intéressant. Bah, je trouve que Jungle Fever, s'il n'est pas un grand film, est un film assez passionnant, par contre, dans ce qu'il raconte. Et en plus, il y a quand même Blade dans son meilleur rôle, quoi, dans l'un de ses meilleurs rôles. Je veux bien sûr dire Wesley Snipes. Et je trouve que c'est très pertinent, là, ce que Spike Lee décrit dans ses relations entre les différents personnages dans ce film qui raconte l'histoire d'une histoire d'amour impossible, en fait.
Oui, une histoire d'amour impossible. Ce que j'aime beaucoup chez Spike Lee et beaucoup dans ce film, c'est son montage justement très brut et en même temps énergétique, qui est un peu son style, sa signature. Et il pose en effet le question justement des relations amoureuses et du poids des préjugés à l'intérieur de ces relations. Voire on peut y voir dans ce film que les préjugés sont tellement lourds qu'ils pourraient y tuer le bonheur, ce qui en fait un peu un discours moralisateur. Et je considère que Spike Lee est assez très critique envers tout le monde, envers toute la société américaine. Mais il y a un point dans le film que je trouve intéressant, qui est l'histoire du frère de Wesley Snipes, joué par Samuel L. Jackson, qui s'appelle Gator, parce que Gator est un drogué, donc qui prend de l'argent à sa mère pour s'acheter de la drogue et revend des objets qui ne sont pas à lui. Et en soi, c'est intéressant parce que son histoire à lui n'a aucun rapport en soi avec les histoires de relations amoureuses qui traversent le film. Or, son histoire est omniprésente dans le film et on a tous les problèmes de drogue et de violence que lui-même, que Gator incarne à lui tout seul. Et du coup, je me demande si c'est pas justement pour montrer de manière succincte qu'il y a une omniprésence justement de problèmes de drogue et de violence dans le quartier ou dans la communauté où il évolue, et par ce moyen, ancrer justement cette histoire d'amour, ou plutôt son film en entier, dans une certaine réalité.
C'est très intéressant ce que tu dis, parce que la drogue, justement, c'est un peu l'élément qu'il a essayé d'éliminer de son film sur le jazz. Je pense que tu as vu Mobetor Blues, mais il essaye vraiment de s'éloigner des clichés des films sur le jazz. Et là, il revient et il fait un truc assez riche, parce que c'est aussi un film de classe, hein, et de relations entre hommes et femmes. Voilà, parce que c'est sa secrétaire, en fait, à lui. Lui, c'est un architecte, et elle, c'est sa secrétaire. Donc, y a ce rapport-là. Et puis, oui, tu l'as dit, le frangin... Il y a les violences policières aussi dans le film. Il y a vraiment... Il arrive à brasser, et c'est assez juste, comme film. Moi, je trouve que c'est assez juste, c'est assez bien vu. Je trouve que c'est un des Spike Lee peut-être les plus mésestimés... Il y a des films de lui qui sont très bien, hein, mais qui ne traitent pas forcément des questions de représentation des minorités. D'ailleurs, je pense à 24 heures avant la nuit ou le film sur le fils de Sam, voilà. Mais Summer of Sam. Mais qui ne traite pas directement de ces questions-là, mais c'est toujours derrière. Mais voilà, je trouve qu'il y a quand même un paradoxe Spike Lee, n'est-ce pas Thomas ?
Moi, Spike Lee, je trouve que parfois, il est vraiment démonstratif dans ce qui est dit, notamment dans son dernier, avant-dernier, Black Klansman. Je trouve qu'il y a un moment, c'est vraiment très très lourd. Mais ce que je reproche surtout à Spike Lee, en dehors de des discours qu'il peut avoir en dehors de ses films, c'est, moi, c'est surtout des questions de forme. Et c'est au niveau de la mise en scène que je lui fais surtout des reproches. Voilà, c'est donc, j'ai trop rien à dire de plus que ce que vous avez déjà dit, en fait.
Écoutez Culture Prohibée.
Mais il y a un autre film récent qui a apparemment fait polémique, même au sein... même au sein de la communauté noire, que ce soit de l'autre côté de l'Atlantique ou ici, qui a eu une réception mitigée. C'est Queen and Slim de Melina Matsoukas. Et je pense que, Damien, toi, tu l'aimes bien, ce film.
Queen and Slim, c'est un Bonnie and Clyde noir. C'est une phrase que vous pourrez entendre souvent et qui, à mon avis, est mal attribuée à ce film, qui brasse tellement plus de choses que juste l'idée de deux icônes en fuite et en quête de liberté. Donc au casting du film, on retrouve Daniel Kaluuya, qui a été découvert pour certains, dont pour moi, dans Black Mirror, mais qui l'avait totalement oublié jusqu'à ce qu'il explose avec Get Out. Et en face de lui se trouve Jodie Turner Smith, qui, même si elle a une carrière qu'on peut considérer comme moins flamboyante, à mes yeux, vole le film. Donc l'histoire, pour la résumer assez vite, c'est l'histoire de deux personnes qui se rencontrent suite à une rencontre Tinder, et alors que l'homme raccompagne la dame chez elle, ils se font arrêter par la police, le contrôle tourne mal et le policier est tué. À partir de ce moment-là, nos deux héros vont partir, vont essayer de prendre la fuite pour éviter les représailles auxquelles ils pourraient faire face. C'est un film qui tient une position équilibrée, qui n'est pas manichéen, qui ne pose pas en soi de dilemme, mais qui pose des problèmes qui sont présents et qui continuent. Il ne va pas vous dire que les policiers sont méchants, les autres sont gentils. Ils vont se concentrer sur ces deux personnages qui, finalement, à travers leur vie, sont en quête d'une chose, de liberté. Et c'est une liberté, c'est une quête de liberté tellement importante que, finalement, même créer une relation amoureuse pose justement, pour revenir à un peu ce qu'on disait avec Jungle Fever, là où Jungle Fever, c'est les questions justement de relations entre les personnes qui posent un problème, enfin pour se mettre ensemble liés aux préjugés. Ici, c'est plutôt la question de liberté qui va justement interroger son point. C'est ce qu'on retrouve notamment avec une scène où on voit un cheval dans un enclos et ils discutent à travers ça. C'est pour revenir sur l'esthétique du film qui est très beau et qui est fait par Melina Matsoukas qui auparavant a réalisé des clips. C'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on retrouve de plus en plus dans des films justement qui mettent en avant les noirs. Je trouve qu'on a un peu l'esthétique de Moonlight, de Barry Jenkins. C'est des plans qui sont très beaux, avec quelques plans oniriques qui parcourent le film. Pas des plans oniriques dans le sens qui sont tirés des rêves, mais plus qui nous met en avant une représentation de l'imaginaire qu'on pourrait se faire parfois, de ce qu'on désire finalement, qui apparaît sous leurs yeux.
Des réserves, mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, et c'est vrai que lui, c'est à la fois représentation des Noirs, des homosexuels, enfin, il y a vraiment... Là, c'est pareil, on est sur le... On coche plusieurs cases, j'ai envie de dire. Cette esthétique, Thomas, c'est quelque chose qui a été... reproché au film, c'est-à-dire à Queen Anne Slim. On a souvent dit les critiques qui n'ont pas aimé le film, parce que visiblement, soit les critiques l'adorent, soit le détestent, mais ceux qui le détestent disent en fait cette esthétique dessert le propos. En fait, c'est un film assez creux, quoi. Voilà. Et je ne sais pas si tu partages cet avis.
Non, je ne partage pas cet avis. Déjà, moi, le premier plan du film m'a plu. Je me suis dit, tiens, ça fait très années 70. Bon, au niveau de la photo, je trouve qu'il y a. Elle met du grain, il y a quelque chose. Elle utilise assez peu la musique. Enfin, elle l'utilise. Non, elle l'utilise pas assez peu. Elle a une utilisation assez intelligente de la musique. Elle n'en met pas partout. Le film, il y a une certaine longueur. Je trouve qu'il y a une certaine sobriété. Après, c'est surtout un film sur le fait que ces deux personnes fuient. Pourquoi ? Parce que, en fait, le flic les a attaqués. Hein. Il était agressif. Et, c'est par accident qu'il est mort. Que le personnage principal tue le flic, parce qu'en fait lui il l'a tué sur la jeune femme, il a blessé la jeune femme et il y a eu une réaction de légitime défense. Donc il faut savoir que si ces deux personnages fuient, c'est parce qu'elles se disent que de toute façon on ne les croira pas parce qu'elles sont noires. Voilà, donc elles sont obligées de fuir et, même si l'opinion publique a tendance à la suivre. En fait, il y a deux clans parmi la communauté afro-américaine. Il y a ceux qui les défendent et il y a ceux qui les enfoncent. Voilà. C'est ceux qui voudraient qu'ils soient pris par la police et ceux qui absolument veulent les défendre. Et, le film est intéressant en ça, où il y a ces deux discours-là. Après, il y a des choses qui sont reprochées au film. Je suis pas trop d'accord. Par exemple, on reproche au film que les femmes noires sont hypersexualisées dedans. En même temps, on évolue dans un contexte particulier, je veux dire, dans un milieu social particulier. Notamment, à un moment, elle va se réfugier chez son oncle qui peut les aider et qui est un gars qui a l'air d'être un petit peu mac, etc. Donc, c'est là l'une des rares scènes où on voit des femmes noires et effectivement, elles sont hypersexualisées. Mais est-ce que le contexte social de cette séquence ne s'y prête pas ? Voilà. Après, on voit très peu, on voit quasiment pas de femmes noires non plus. Moi, oui.
Sachant que elle-même est avocate.
Oui, en plus, elle a une position importante. Elle est avocate. Elle est habillée très classe. Moi, j'aime beaucoup une scène. Il y a une scène que j'aime beaucoup, c'est la scène dans la discothèque. Ah, je trouve que c'est la plus belle scène du film. Il y a vraiment de la sensualité, il y a de l'émotion. C'est l'une des plus belles scènes du film. Et à un moment, ils essaient de se cacher. Alors, ils mettent des fringues qui ressemblent à rien, qui les font ressembler à rien. Et lui, il va au bar. Et puis, en fait, la femme qui est une femme âgée la reconnaît tout de suite. Elle leur offre des verres par rapport à ce qu'ils ont fait. Et je trouve qu'il y a des choses très bien dans le film. Il y a des choses que j'aime pas du tout. La fin, je n'aime pas du tout la fin. Elle est emphatique, elle est lourde, et elle met de la musique et c'est fait pour faire pleurer. Je trouve que la fin, elle est ratée parce que tout le reste du film, je trouve que tout le reste du film est relativement sobre et surtout n'est pas misérabiliste. Parce qu'il y a aussi, beaucoup d'humour en fait dans le film. Il n'est pas misérabiliste. Effectivement, comme tu l'as dit, Damien, c'est pas manichéen. Moi, je suis ressorti du film enchanté. Je me disais, bah, l'année cinéma commence bien. Je suis prêt à écouter les réserves de certains et à revoir le film et voir si, éventuellement, revoir mon jugement sur certains points. Mais en général, je sors plutôt positif du film, quoi. If it's name money, then mine right beside it. Real fucking ride or die. I'ma ride that dick like a stolen car. I got the best pussy that you had thus far. Which bitch you know going hard, it's me. I'ma ride or die and I don't need the key. I'm finna bounce that ass and drop that ass and pop it like a shootout. I pull them panties down, they smiling like they bought the food out. I hop up on their face and make my hips go like a luau. I showed you I'm a gangster, now I wanna see what you got. I ain't shy, bust it wide cause I been that bitch. I bust it wide cause I been that bitch. Hey, now don't be playing with a real bitch. Like I won't step back, click, click, clack and hit the kill switch. Like it ain't problems in my life I gotta deal with. Like I won't take them out on you real quick. Hey, I ain't scared, I'ma pop that shit. I ain't shy, bust it wide cause I been that bitch. I ain't scared, I'ma pop that shit. I ain't shy, bust it wide, cause I been that bitch.
Écoutez Culture Prohibée spéciale minorité dans le cinéma US.
Après, bon, je le disais tout à l'heure, on parle beaucoup de la question de la représentation des Noirs depuis tout à l'heure. On a parlé un peu des Italiens aussi, mais il y a une communauté, c'est vrai, qui est assez peu représentée dans le cinéma US, en fait, c'est asiatique. Et en fin de compte, à y regarder de plus près, peut-être, à part L'année du dragon de Michael Cimino, avec Mickey Rourke, hein, qui enquête dans Chinatown, on a rarement, en fait, dans les protagonistes principaux, des Asiatiques, quoi. Voilà. Et c'est vrai que le film de Cimino... peut-être son dernier grand film, hein, je crois qu'on peut le dire. Hein. Il a fait d'autres films après, mais ça, c'est vraiment un grand film, quoi. C'est vraiment son dernier grand film, qu'on avait déjà chroniqué dans l'émission, d'ailleurs. Il est assez passionnant, parce que on est quand même éloigné du méchant asiatique de Black Rain avec Michael Douglas. Là, on est sur quelque chose de plus... c'est Cimino, c'est pas manichéen, quoi. C'est-à-dire, on est sur de l'ambiguïté, parce qu'on navigue quand même dans une faune interlope, là. Hein, et il y a un personnage féminin qui est particulièrement réussi.
Oui, et puis il y a ce personnage de Mickey Rourke qui est quand même un flic raciste. Donc, qui est chargé d'enquêter dans un milieu qui regarde de haut, pour lequel il éprouve de la condescendance. Et la façon dont j'ai l'impression de la façon dont est représenté, je me trompe peut-être, hein, j'ai pas vu tous les films états-uniens avec où est représentée la communauté ou les communautés asiatiques. Donc, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que la communauté asiatique, elle correspond à un cliché, c'est-à-dire des gens qui vivent en vase clos, qui ont leurs secrets, leurs trucs entre eux, etc. Et on retrouve ça dans Big Trouble in Little China de John Carpenter, avec une mythologie fantastique qui se mêle à ça et qui participe à cette vision de la communauté asiatique du film, quoi. Donc j'ai l'impression que c'est un peu traité comme ça. Et c'est vrai que je n'ai pas en tête d'autres films où la communauté asiatique apparaît.
Il y a le Gran Torino d'Eastwood qui est très différent dans son traitement parce qu'il traite d'une partie de la communauté asiatique. Je crois qu'il s'appelle les Hmongs, mais je ne veux pas dire de bêtises, qui en fait était... parce que ça, c'est assez peu soulevé. On dit toujours Gran Torino, c'est l'inspecteur Harry qui redeviendrait plus humain et puis qui se rachète, c'est une rédemption. Alors c'est vrai que le film est une rédemption, puis en plus... Pour boucler la boucle un peu avec le début de notre émission, il entre en relation avec Blue Collar, parce que cette Gran Torino, voilà, c'est la fierté du peuple américain, fabriquée à la chaîne, voilà.
La voiture.
La voiture, voilà. Et puis, je crois que d'ailleurs, dans l'histoire, il l'a fabriqué lui-même, Eastwood. Bon, c'est un film merveilleux, hein, moi j'adore ce film, mais cette communauté quand même asiatique qui est représentée, c'est une communauté en fait qui soutenait la guerre du Vietnam. Et ça, c'est quelque chose qui a été assez peu relevé par les critiques de cinéma. Ce qui fait que c'est plus ambigu que ça. Du coup, le film d'Eastwood est quand même un poil plus ambigu. Mais par contre, là où on peut aussi faire le lien à la fois bon, avec Blue Collar, la voiture, voilà, mais aussi avec le film de Mickey Rourke, c'est que Eastwood, il est raciste, quoi, son personnage dans le film, quoi. Il est clairement raciste. Voilà, c'est un Américain raciste. Voilà, c'est l'Américain moyen, ouvrier, qui s'est usé la santé à construire des bagnoles, qui est vieux, qui est fatigué. Ce qui est génial, c'est qu'il vit toujours avec son instrument d'oppression. C'est-à-dire, il est toujours très fier de sa bagnole qui représente les États-Unis, alors qu'en fait, il s'est crevé toute la santé dans cette usine, quoi, voilà. Et y a cette confrontation, effectivement, avec une partie de la communauté asiatique qu'on connaît très peu. On connaît très mal, en fin de compte, la communauté asiatique parce qu'elle est très peu représenté dans le cinéma états-unien, puis pas que dans le cinéma états-unien d'ailleurs. Hein. Et effectivement, on a toujours cette image d'une communauté qui vit en vase clos, qui ne veut pas d'histoire, qui ne se mélange pas aux autres, et que donc on voit très très peu. Et puis on les laisse dans les clichés, parce qu'après tout, les Asiatiques qu'on va voir, ça va être quand Bruce Lee vient faire des films en Occident, quand Jet Li vient faire des films en Occident, ou Jackie Chan, et qu'on se castagne et tout ça. Enfin, c'est une image, d'ailleurs des films que j'aime bien, mais je veux dire, c'est une image un peu d'épinal de l'Asiatique qui fait des arts martiaux et puis qui est super fort aux arts martiaux. Voilà.
Il y a aussi China Girl de Ferrara.
Mais... Qui est très différent, c'est-à-dire que là, ouais, on est sur un...
Qui reprend Shakespeare, voilà, Roméo et Juliette, quoi.
C'est Roméo et Juliette, version... C'est aussi West Side Story, version italo-chinoise, quoi. Voilà, quoi. C'est un peu ça. Mais qui est très intéressant aussi, comme film, hein, d'ailleurs. Hein, qui est ressorti chez ESC, il me semble, d'ailleurs, récemment. Ouais. Il me semble. Enfin bon, vous l'aurez deviné, on n'arrivera pas à faire le tour, évidemment, de toute la question en une seule émission. Mais ça nous semblait important de revenir sur le sujet et puis d'essayer de débattre. Alors, on s'est peut-être égaré, on s'est peut-être perdu, je ne sais pas, on attend vos réactions, n'hésitez pas, hein, sur le Facebook, sur le blog de l'émission. Voilà, mais en tout cas, on a essayé d'aborder la question qui nous paraît importante et qui nous paraît surtout souvent prise sous le mauvais angle. Voilà, voilà. Après, ce n'est que notre humble avis, hein. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà, mais je pense qu'on reviendra sur la question dans les années à venir, dans les saisons à venir, puisque c'est une question, la représentation des minorités au cinéma, qui nous passionne.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demé, dit la Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit le Loup-Garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.